Dans cette conversation du lundi, je sors de mon bocal pour poser la question : en quoi le fait de sortir de nos conditionnements nous rend moins manipulables ? Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode des Conversations du lundi où j'aimerais poursuivre avec vous la conversation et la réflexion autour de cette thématique fondamentale du conditionnement et du déconditionnement qui est une thématique que je vais poursuivre avec vous pendant une année complète. Donc vous allez avoir énormément de matière parce que effectivement il y a énormément de choses à dire à propos de cette question fondamentale. Et aujourd'hui, donc comme je vous l'ai annoncé, j'aimerais poser la question mais quel intérêt avons-nous, nous, les poissons rouges, à sortir d'un si bel étang pour aller nous risquer vers un lac qui est beaucoup plus grand et dans lequel peut-être beaucoup de choses inconnues nous attendent, peut-être même des prédateurs qui feraient que nous allons nous faire bouffer tout cru lorsque nous serons dans un lac que nous ne connaissons pas. Et puis avec toute cette, cette insécurité et cet inconfort de sortir de l'étang en tant que poisson rouge et d'être entre deux eaux. Hein. On le dit d'ailleurs, c'est une expression populaire bien connue qui consiste à dire ben, je nage entre deux eaux pour l'instant, ben, effectivement je ne suis plus dans mon étang mais je ne suis pas encore dans un lac, ce qui fait que je suis comme un poisson hors de l'eau, je suis comme un poisson hors de son bocal. Et pourtant ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que nous avons tout intérêt à sortir de choses qui sont trop étroites. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que en réfléchissant et en lisant toutes les questions, toutes les réflexions extrêmement riches, extrêmement pertinentes, pour lesquelles d'ailleurs je vous remercie encore une fois, c'est que je me suis dit, mais finalement, comment est-ce que je pourrais les intéresser à cette notion de déconditionnement et à vous montrer finalement quel est l'enjeu fondamental pour lequel nous devrions effectivement tous sortir des conditionnements qui sont trop étroits pour aller vers des conditionnements. Oui, ce sont encore des conditionnements, mais qui sont plus larges. Donc, c'est quoi le critère? C'est quoi l'enjeu qui nous ferait sortir d'un conditionnement étroit pour un conditionnement moins étroit? Puisque, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on ne peut pas ne pas être conditionné. Cela dit, on peut choisir le type de conditionnement auquel on va adhérer et que nous allons accepter à l'intérieur de notre vie. Et pour moi, la réponse, elle tient à ceci. C'est que plus nous sommes conditionnés, écoutez bien ça, plus nous sommes conditionnés, plus nous sommes manipulables. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Le conditionnement n'est pas une manipulation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, plus je vais être conditionné, plus je vais être facilement manipulé ou manipulable, plus je vais être facilement influencé ou influençable, plus je vais être facilement déstabilisé ou déstabilisable par toute une série de moyens que j'aurai l'occasion de vous présenter dans les prochaines vidéos. Donc en fait, ce que je vais faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, c'est de vous présenter toute une série de stratégies qui sont mises en place pour nous manipuler, pour nous influencer, pour nous déstabiliser et finalement pour nous faire faire, pour nous faire dire, pour nous faire penser ou pour nous faire ressentir des choses contre notre gré ou à notre insu. Puisque c'est ça que je définis dans mon livre consacré au jeu de pouvoir, relations et jeu de pouvoir. Je dis finalement la manipulation consiste à faire faire, à faire dire, à faire penser, à faire ressentir quelque chose à quelqu'un contre son gré ou à son insu et sans en prendre la responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, en conditionnant quelqu'un, eh bien, on va faire en sorte que la personne ne se rendra même pas compte par qui elle est manipulée. Et donc, la manipulation va paraître comme quelque chose de totalement invisible. Vous ne serez pas capable d'identifier la personne qui vous a fait faire quelque chose qui ne correspond pas finalement à vos besoins, à vos valeurs fondamentales. Vous allez dire des choses, vous allez tenir des discours, mais si vous réfléchissez, vous vous dites, mais bon sang, mais comment est-ce que j'en suis arrivé à tenir ce genre de discours xénophobe, par exemple, ou raciste, ou intolérant? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Comment est-ce que j'en suis arrivé à ressentir des choses par rapport à telle ou telle situation? Comment est-ce que j'en suis arrivé à penser des choses de cette façon-là? Et parfois, vous êtes horrifié parce que quand vous avez des moments de lucidité, des moments d'éveil, vous vous dites, mais bon sang, mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Mais c'est parce que vous avez été conditionné à un moment donné et ce conditionnement a permis finalement de vous faire faire, de vous faire dire, de vous faire penser et de vous faire ressentir des choses qui ne vous correspondent pas. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'il est urgent de choisir de sortir de ce type de conditionnement qui nous prépare à la manipulation. Alors, je vous donne quelques exemples extrêmement rapides. Si on vous a conditionné, je ne dis pas manipulé, si on vous a conditionné dès le plus jeune âge à croire sur parole les figures d'autorité, ben c'est clair que lorsque vous allez écouter à la télévision un scientifique, vous allez lui faire confiance. Quand vous allez entendre un ministre de l'économie vous dire ce qu'il faut faire pour sortir de la crise, vous allez avoir tendance à lui faire confiance. Quand vous allez avoir un professeur ou un patron qui va vous dire quoi faire, vous allez avoir tendance à lui faire confiance. Si Jean-Jacques Crèvecœur vous dit quoi faire, ce que je ne fais quasiment jamais, parce que en ce qui me concerne dans ma vocation de formateur accoucheur, et c'est pour ça que je me prénomme et je me qualifie de formateur accoucheur, moi ce qui m'intéresse, c'est justement de réveiller en vous le potentiel de liberté, le potentiel d'autonomie qui vous permet de faire les choix qui vous intéressent. Et donc, c'est pas pour rien que je m'appelle Crève-cœur, vous voyez, parce que Crève-cœur, c'est crever toutes les couches qui empêchent votre cœur de battre à nouveau. Et c'est pour ça que je suis extrêmement content d'avoir ce nom. C'est parce que ça me permet d'utiliser mon épée et de dire « arrêtez d'être conditionné comme cela ». Mais si vous êtes conditionné, vous auriez tendance à projeter sur moi une figure d'autorité et à me croire sur parole, alors que je ne cesse de vous répéter, ne me croyez pas sur parole. Vérifiez en permanence tout ce que je vous raconte. Et c'est ça que je vous dirai tout au long de cette année sur le thème du conditionnement et du déconditionnement. C'est, je vous donne des informations pour élargir votre esprit, mais après ça, bon sang, faites vos devoirs. Faites votre devoir de vérifier par vous-même et d'avoir un esprit critique vis-à-vis de toute figure d'autorité, y compris celle de Jean-Jacques Crèvecœur. D'accord ? Si on vous a conditionné à obéir aveuglément à une figure d'autorité, ben ça fera de vous des bons petits soldats, ça fera de vous des bons petits employés, ça fera de vous des bons petits consommateurs, parce qu'on vous dit achetez tel truc, et ben vous allez l'acheter. On va vous dire allez au combat, allez vous faire tuer, devenez de la chair à canon, et ben vous allez le faire. Si on vous a conditionné, à vous considérer comme incompétent pour gérer les affaires de la cité, pour vous considérer comme n'ayant pas d'idées pertinentes par rapport à la gestion de votre municipalité, la gestion de votre pays, la gestion de votre province, etc., eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre devoir de citoyen, c'est-à-dire que vous allez voter une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, je ne sais pas dans votre pays à quel rythme on vous demande de faire votre devoir démocratique, mais c'est une vraie blague. C'est une vraie blague parce qu'une fois tous les 4 ans, on vous fait croire que vous avez le pouvoir d'élire les gens qui vont vous représenter. C'est ce qu'Étienne de la Boétie appelait la servitude volontaire. C'est quand même fort comme expression, la servitude volontaire. Ça veut dire que volontairement, vous vous mettez en servitude par rapport à des gens qui vont gérer les biens communs en votre nom. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que ces gens ne font que servir les intérêts des grosses compagnies et des puissants de ce monde? Et finalement, c'est vrai de dire que les hommes et les femmes politiques représentent ceux qui les ont élus. Parce que ceux qui les ont élus, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce sont ceux qui ont financé leur campagne électorale. Et bien entendu, en retour, les hommes et les femmes politiques, la plupart d'entre eux en tout cas, vont être au service de ceux qui les ont mis en place, c'est-à-dire ceux qui leur ont donné le pouvoir de l'argent. D'accord ? Donc, si vous avez été conditionné comme ça, vous allez être dans cette légende de la démocratie qui est une véritable farce. Nous ne sommes plus en démocratie depuis très très longtemps. Si on vous a conditionné à ne pas faire confiance dans votre ressenti, dans vos émotions, dans votre instinct, eh bien, vous allez être manipulé et manipulable en permanence, parce que même s'il y a des indicateurs intérieurs qui vous disent « Oh là là, fais pas confiance à ce bonhomme-là ou à cette bonne femme-là », comme on vous a dit « Oui, mais n'écoute pas tes émotions, n'écoute pas ton instinct », vous allez vous faire avoir, pour ne pas dire un mot beaucoup plus grossier, mais que je ne vais pas dire, parce qu'on est quand même sur une chaîne publique. Bon, si on vous a conditionné à croire que le bonheur, c'est de posséder des biens matériels, eh bien, vous allez avoir tendance à être manipulé et manipulable par la publicité qui est en permanence présente dans les télévisions, dans les radios, dans les magazines, etc., et qui vous disent « achetez ce produit-là, vous allez être plus heureux, vous allez être épanoui. Ça va être génial si vous avez une voiture plus puissante. Ah, qu'est-ce que vous allez vous sentir bien? Et vous êtes donc, nous sommes tous manipulés et manipulables si nous avons été conditionnés à croire que le bonheur, c'est de posséder. Le bonheur, c'est d'avoir, comme disait, je pense, c'était Laurent Voulzy, dans Foule sentimentale. Par contre, si vous choisissez un autre type de conditionnement, si vous choisissez de vous former, et c'est pour ça que je fais mon métier de formateur, je ne vous le cache pas, et si je fais cette série de vidéos, c'est parce que j'ai envie de vous former. J'ai envie de vous former à reprendre votre vie en main, à reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est ce que je fais depuis 30 ans et c'est ce que je continuerai à faire, parce que je pense que mon travail est un travail d'utilité publique. Donc, si vous choisissez de vous conditionner à ne plus faire confiance dans les figures d'autorité, à ne plus obéir aveuglement aux figures d'autorité, à ne plus vous sentir incompétent par rapport à la gestion du bien commun et à dire que vous avez, vous aussi, droit à interpeller les autorités publiques pour que votre commune, votre municipalité, votre province, votre pays soient gérés avec des choix différents. Si vous vous conditionnez à écouter et à faire confiance à votre petite voix intérieure, à votre instinct, si vous conditionner autrement, de telle sorte que vous vous rendez compte que le bonheur, finalement, c'est d'être qui vous êtes, fondamentalement, et de ne plus être dans la recherche absolue de possession. Alors, je n'ai pas dit que vous ne deviez plus posséder quoi que ce soit, c'est le rapport à la possession qui doit être changé. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Saint François d'Assise qui, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, préconisait à ses premiers frères dans sa première communauté la pauvreté choisie, donc la pauvreté volontaire. Et un des frères de Saint François d'Assise avait choisi vraiment d'être extrêmement radical au niveau de se déposséder de tout, sauf de son crayon et de son carnet de croquis, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement doué pour faire des dessins d'oiseaux et d'animaux dans la nature, etc. Et un jour, Saint François d'Assise avait remarqué cela chez son frère, et donc il lui dit « Est-ce que tu peux me prêter ton crayon ?» Et l'autre lui répond « Ah non, pas question, je me suis dépossédé de tout, mais ça, ce crayon, jamais je ne m'en déposséderai. » Et Saint François lui a dit « Ben alors, tu n'as pas compris ce que c'était l'esprit de pauvreté. » L'esprit de pauvreté ne consiste pas à ne pas posséder des choses, mais l'esprit de pauvreté consiste à ne pas être possédé par les choses. Et c'est vraiment à cela que je vous inviterai dans les prochaines semaines, c'est de voir comment nous pouvons nous reconditionner petit à petit, de telle sorte que nous redevenions notre propre autorité pour choisir la vie à laquelle nous aspirons.